Est-ce la bonne décision ? Quelque chose ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Avec Anne-Sophie Alsif, chef économiste du cabinet d'audit BDO France, professeure à Paris 1 Panthéon-Sorbonne et chroniqueuse pour Forbes tous les mois. Stéphane Carcio, responsable de la division revenu-travail de l'OCDE, membre du Cercle des économistes, partenaire de cette émission chaque jeudi. Christian Chavagneux, éditorialiste à alternativeséconomiques.fr, qui a publié notamment les plus belles histoires de l'escroquerie du collier de la reine à l'affaire Madoff au Seuil. Alors j'ai des auditeurs qui ne sont pas de votre avis, Stéphane Carcio. Ils considèrent qu'ils entendent le catéchisme de Macron, en défendant la réforme de l'assurance chômage. Attal et Gabriel Attal, il tient énormément. Il y a Anthony qui m'écrit, j'ai été chômeur il y a 10 ans. Objectivement, je gagnais plus au chômage que n'importe quel boulot que j'aurais pu prendre à l'époque. J'ai optimisé jusqu'au bout et j'ai cherché tardivement au moment où les droits allaient s'arrêter. Bon, c'est un témoignage, hein, c'est pas plus qu'un témoignage. Comment éradiquer la grande pauvreté ? Alors, je résume et je vous laisse réagir. Donc, c'est le revenu minimum, c'est comme ça que je l'ai compris. Vous dites...
C'est la proposition de Guillaume Allègre.
Oui, de Guillaume Allègre, de l'OFCE, absolument. Vous dites, ben, soit on va au minimum vieillesse, c'est un peu en dessous de 1 000 euros, ça coûte 11,3 milliards par an, soit on va carrément au seuil de pauvreté, c'est 1160 euros par mois, ça coûte 23,8 milliards d'euros par an. Et moi, j'y vois vraiment le revenu minimum. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée, c'est qu'il n'y a plus d'aide de minima sociaux. Il y a un revenu minimum qui est accordé à la population. Vous allez me dire si j'ai bien compris. Deuxième élément, on va plus loin sur les territoires zéro chômeur. Alors effectivement, c'est de l'emploi subventionné, mais on le concentre sur les 295 000 chômeurs de longue durée, ce qui fait 3 milliards 2, soit 11 000 euros nets par emploi. Et puis, on met 10 milliards d'euros supplémentaires dans l'ensemble du dispositif en faveur du logement, logement social, APL, rénovation énergétique, mobilisation du foncier. Ça fait donc, si on prend la totalité, 37 milliards par an et la grande pauvreté est éradiquée. C'est ce que vous écrivez. C'est à l'avantage d'être hyper concret. Et puis, de poser la question du revenu minimum.
D'abord la photo, on est à 14,5% de la population française qui est sous le seuil de pauvreté, record depuis 25 ans. On n'a jamais été aussi haut.
On était plutôt à 13, traditionnellement.
14,5%, et ce sont les dernières stats INSEE, c'est-à-dire celles de 2021. Et on sait que 2022-2023, qui sont des périodes de forte inflation, beaucoup d'études sont sorties qui nous disent que les plus bas déciles subissent plus la hausse de l'inflation. Donc ce sera sûrement plus haut en 2022 et sûrement plus haut en 2023. Est-ce qu'on peut se contenter de cette situation ? Non seulement le nombre de pauvres augmente, mais on mesure aussi en France l'intensité de la pauvreté.
Est-ce que vous mettez dans l'intensité de la pauvreté ?
Est-ce que vous en sortez quand même un peu ou est-ce que votre dégradation de logement, de machin, dans votre vie de tous les jours, est-ce que ça se dégrade en plus quand vous êtes pauvre ou pas ? Et oui, l'intensité, l'indicateur d'intensité de la pauvreté augmente. Donc on est vraiment dans une situation extrêmement difficile pour ce qui est des pauvres et de la grande pauvreté. Donc ça c'est le constat. Après, on met sur la table des calculs arithmétiques tout bêtes. Si vous l'êtes à 50% du revenu médian, ça coûte 10-12 milliards. Si vous l'êtes à 60% du revenu médian, quel seuil de pauvreté officiel, ça coûte, vous l'avez dit Nicolas, à peu près 22-25 milliards.
23, voilà,
8. À peu près 25 milliards. Si vous voulez en plus, aider pour le logement, si vous voulez en plus, vous pouvez monter jusqu'à 37. Mais bon, restons à 25 milliards pour simplement mettre les gens au niveau du seuil de pauvreté. 25 milliards, vous faites ça sur 5 ans, c'est 5 milliards par an. Bon, voilà, est-ce qu'on a les moyens de trouver ça au moment où la Cour des comptes nous dit avant-hier dans son rapport sur l'état des finances publiques enfin on arrête les baisses d'impôts dans ce pays, voire même 2024, il y aura peut-être une petite hausse des impôts, contrairement à ce que dit le gouvernement, 3 milliards et demi. Est-ce qu'on a les moyens de mettre cet argent sur la table? Vous l'avez dit, Bruno Le Maire cherche 10 milliards pour cette année, cherche 20 milliards pour le prochain. Moi, si vous voulez, j'ai une proposition à vous faire pour donner 55 à 60 milliards au gouvernement demain matin. Je pense que 5 milliards par an sur horizon de 5 ans. Après, oui, bien sûr, en régime de croisière.
Faire rentrer 55 milliards.
Ouais, je fais rentrer 55 à 60 milliards par an sur un truc, un projet de loi qui se met en deux lignes.
C'est-à-dire, allez-y.
Bon, c'est-à-dire, on sait que l'ensemble de la richesse du patrimoine détenu en France est 7 fois le PIB à peu près. On sait que les 1% les plus riches en ont un quart. Vous mettez une taxe de 2%, une taxe progressive.
Sur le 1%.
Sur la richesse. Et une taxe progressive, c'est-à-dire qu'au moment où ça dépasse les 1% les plus riches.
Oui, avec un effet marginal.
Avec un effet marginal. Et là, vous comptez 10-15% de gens qui vont essayer d'échapper à ça, ils vont faire de l'évasion ou de la fraude fiscale. Et vous tombez à peu près sur 55 à 60 milliards. Et
le patrimoine. C'est une recette annuelle, ça, selon vous?
Oui, tout à fait. Le patrimoine des 1% les plus riches, c'est 5 000 milliards d'euros en France aujourd'hui. Donc, une fois que vous leur avez piqué les 60 milliards, il leur reste 4 840 milliards de patrimoine.
Exceptionnel ou pérenne?
Parce qu'il faut payer tous les ans.
Il faut payer tous les ans, évidemment. Donc
sauf que vous le ferez une fois.
Allez, terminé.
C'est pérenne.
Bon.
C'est pérenne.
OK. Et donc, alors voilà, le seuil de pauvreté. Donc, plus pérenne. C'est le revenu minimum, on est d'accord.
Ce que propose Guillaume Allègre, c'est pas un revenu universel, parce qu'il dit il y a des demandes de contrepartie, et de son point de vue, c'est justifié.
Oui, il dit
c'est justifié. C'est une sorte de revenu minimum d'insertion. Qui permet vraiment aux gens de retourner dans une vie décente.
Alors. Réaction, Stéphane Garcillo.
J'ai pas lu.
J'ai
pas lu le rapport. Donc
interview, c'est une interview de Guillaume Allègre de l'OFCE dans les colonnes que j'ai lu intégralement et c'est ça l'idée. Quoi.
Écoutez, moi, ce qui me semble vraiment important, c'est oui, effectivement, si on veut lutter contre la pauvreté, on peut augmenter le niveau des prestations. Aucun pays de l'OCDE n'a des prestations sociales qui vont jusqu'au seuil de pauvreté. Pourquoi ? Essentiellement parce que même si on le sait, certaines personnes ont des grandes difficultés à retourner en emploi, on veut conserver une incitation forte au travail par rapport à l'inactivité.
Et là, l'incitation à l'inactivité serait trop grande.
Ah 1200 avec les autres aides qui peuvent se cumuler, notamment les aides locales, les aides au logement, etc. Alors, je ne sais pas si le calcul est fait avec net de toutes les aides, mais notamment il y a beaucoup d'aides locales. On peut très facilement.
J'ai compris que ce serait que ça remplaçait tous les autres minima. Hein,
voilà. Presque. Oui, alors le problème c'est que d'abord, si vous remplacez.
C'est vraiment quand même l'idée du revenu.
Alors,
il y a presque un côté un peu négatif.
Il y a plusieurs problèmes. D'abord, un, il y a des aides locales qui sont pas prises en compte, donc ce qui va vous emmener assez loin. D'autre part, il y a beaucoup. Quand on supprime toutes les autres aides, ça fait en fait potentiellement beaucoup de perdants. Parce que il se trouve que le système de prestations sociales en France, comme dans beaucoup de pays, a créé beaucoup de différenciation selon les situations individuelles. Donc, par exemple, les personnes qui sont en situation de handicap, qui ne peuvent vraiment pas travailler, elles sont déjà à 1000 euros ou un peu plus en prestation, parce que de toute façon, c'est pas une question d'incitation.
C'est l'allocation adulte handicapé.
Voilà.
Elle, d'ailleurs, a suivi la progression normale des indexations.
Et ces gens ne peuvent pas travailler, donc de toute façon, il n'y a pas un problème d'incitation, il faut les sortir de la pauvreté. En revanche, pour les autres, c'est extrêmement modulé selon la situation familiale. Donc quand on se dit, on supprime tout et on donne 1000 euros à tout le monde, en fait, il y a des gens qui vont perdre potentiellement lorsqu'on fait cet exercice-là. Donc il faut être extrêmement vigilant avec ce type de dispositif. On peut créer des situations, notamment pour les familles monoparentales, qui sont extrêmement, extrêmement difficiles. Donc, premier frein, effectivement, le fait de supprimer. Deuxième frein, qu'est-ce qu'on fait de l'incitation au retour à l'emploi, sachant qu'il faut quand même garder un gap.
C'est la principale critique.
Il faut garder un gap, voilà. Et troisième critique, c'est que une des grandes situations de pauvreté vient du fait qu'on ne parvienne pas à travailler suffisamment d'heures. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont en situation de pauvreté, mais qui travaillent. Et qui travaillent malheureusement pas assez d'heures
pour sortir de la pauvreté. Hein. C'est la thèse de Gilles Verset. C'est que le principal moteur, c'est l'absence de quantité de travail suffisante.
Voilà. Et donc en France, comme dans beaucoup de pays, c'est ce problème de quantité de travail. Et donc c'est peut-être là-dessus qu'il faut investir fortement. Comment est-ce qu'on fait accéder ces personnes à des quantités de travail plus importantes? Et là, il y a à la fois des questions de compétences, des questions de frein de la mobilité, des questions peut-être d'aide à l'embauche. Enfin, il y a tout un volet à voir pour lutter contre la pauvreté. Cela étant, la France actuellement fait entre guillemets, plutôt bien avec son système de prestations sociales. Quand on compare avec des pays nordiques, vu ce qu'on dépense, on réduit fortement la pauvreté monétaire,
bah, la redistribution
générée spontanément
monétaire.
Par le marché. La France fait coupe fortement la pauvreté grâce à son système actuellement.
Monétaire.
Mais donc, le système fonctionne effectivement pas si mal. Après, qu'est-ce qu'on fait pour aller plus loin dans la lutte contre la pauvreté? Voilà, les éléments du débat, à mon avis, sont ceux-là.
Anne-Sophie, par rapport à ce que disait Christian, la réaction de Stéphane Carcillo. Moi, toutes ces histoires de revenus minimum, d'impôts négatifs sont des histoires qui m'intéressent. Mais je ne sais pas comment vous voyez.
Non, moi, je trouve que c'est intéressant, mais moi, c'est vrai que je serais plus focalisée sur qui tombe encore une fois dans la pauvreté. Parce que c'est vrai qu'on dit les chômeurs, c'est toujours très générique. Ce qui est assez intéressant, c'est de regarder d'une manière...
Famille monoparentale, les femmes seules plus, qui travaillent peu d'heures, effectivement, dans le mois.
Et là encore, c'est pour ça que je nuancerais, à mon sens, on peut créer toutes les incitations du monde, mais le problème, vous touchez des populations, c'est pas le problème d'incitation. Combien de femmes qui sont en temps partiel qui vous disent « moi, je voudrais avoir plus d'heures ». Donc, elles veulent, elles demandent, etc., mais elles n'en ont pas. Donc, c'est pas une question d'incitation.
Et donc, l'idée d'atteindre le seuil de pauvreté avec les aides sociales.
Me choque un peu dans cette augmentation de la pauvreté, il faut le dire, il y a quand même une augmentation, donc c'est quand même un fait. C'est vraiment deux catégories, donc désolé, je reviens toujours à mes jeunes, c'est vrai qu'on n'en parle pas politiquement parce que, non, là sera autre chose, mais on n'en parle pas parce qu'ils votent moins, donc on a toujours tendance à en parler moins, mais c'est quand même eux qui sont beaucoup plus tombés dans la pauvreté depuis le Covid, notamment avec les prix de l'énergie et l'alimentaire.
Le logement.
Et le logement. Et quand vous avez une jeunesse qui se retrouve vraiment paupérisée, c'est quand même très compliqué avec toutes les questions.
Mais donc par rapport à la proposition qui est évoquée dans les colonnes d'Alter Echo.
Par exemple, pour cette catégorie-là, ça pourrait être bien d'avoir cette discussion et cette réflexion pour un temps qui pourrait être, par exemple, limité, si la personne est en formation ou avoir des aides. Moi, je parlerais plus d'aides anti-pauvreté, c'est-à-dire de dire, on voit que les jeunes ont été beaucoup plus impactés par le prix de l'énergie, le coût du logement, l'inflation alimentaire. Peut-être qu'il peut y avoir une aide spécifique et ponctuelle pour justement tuer ce gap. Et
on a eu le débat sur le RSA en dessous de 25 ans.
En effet, quand la personne après trouve un emploi, etc., sort, vous arrêtez l'aide. Donc ça peut être une idée. Et puis l'autre élément et d'autres catégories qu'on voit moins que aussi sous les radars, vous l'avez dit, c'est vraiment dans la classe moyenne, les premiers déciles. Donc ce sont vraiment les personnes qui ont vraiment, depuis 10 ans, subi l'explosion des prix de l'immobilier.
Qui travaillent et qui ont
cette paupérisation à cause de ça, mais qui, malgré l'augmentation des prix de l'immobilier, bénéficiaient du fait que l'alimentaire, l'énergie, ça coûte rien. Et donc, dans leur pouvoir d'achat, s'en sortaient encore, puisqu'on l'avait beaucoup pour l'immobilier et pour le logement. Mais pour le reste, comme les autres postes étaient plutôt faibles, on arrivait à dégager encore des loisirs.
Et c'est la France de l'angle mort d'Emmanuel Macron.
Exactement. Et là, cette catégorie, en effet, a toujours le coût du logement et en plus maintenant l'alimentaire, l'énergie. Donc on ne veut pas dire, et ils ne vont peut-être pas dans les classes de pauvreté, de vraiment passer sous le seuil, mais il y a vraiment un sentiment d'augmentation d'inégalité, de paupérisation, du revenu disponible au logement, au loisir, à la culture qui baisse pour payer des dépenses contraintes, et ça on les voit moins. Par contre, c'est vraiment un sentiment d'augmentation des inégalités et de la paupérisation. Et là, c'est compliqué parce qu'on le sait en France, c'est souvent les gens qui consomment le plus. On a un modèle de croissance qui est basé sur la consommation intérieure. Donc, je dirais que c'est la richesse du pays. Si ces personnes consomment plus et sont plus intégrées socialement et économiquement dans l'économie, ça a un impact sur la croissance et ça a un impact sur la richesse créée. Et ça, c'est vrai qu'ils sont moins dans les radars. Et à mon sens, il y a quand même un impact économique qui est non négligeable.
Et quel que soit le dispositif institutionnel retenu, c'est pas un gros budget. Nous, c'est ça surtout qui nous a surpris. Quand on pensait pas faire ce papier dur, tiens, on s'est dit à un moment donné, et si vraiment on voulait mettre du budget sur la table, il faudrait aller chercher combien. C'est pas si énorme que ça. Nous, c'est ça surtout qui nous a interpellés.
Par rapport aux aides énergie, par exemple.
Vous disiez tout à l'heure que vous vous attendiez à des hausses d'impôts en 2025.
La Cour des comptes a fait le bilan 23-24. Donc, pourquoi est-ce qu'on a moins de recettes fiscales en 23? Élasticité de 0,6. Alors, d'habitude, on a une élasticité à 1 des recettes fiscales au PIB, 0,6 l'année dernière. Et on voit que ça touche à peu près tout, entreprises, TVA, enfin ça touche
sur,
à peu
sur
près
l'IS, hein.
Surtout l'IS. Mais,
4 milliards, 4 d'IS manquant à l'appel.
Mais pas que l'IS. Oui. Et la Cour des comptes dit c'est l'arrêt de la baisse des impôts quasi arrêt en 2024, voire même il va y avoir une petite hausse sur des taux d'assises sur le gaz, je
oui,
crois.
Oui, ah, oui, oui,
ça,
oui,
une petite hausse qui va faire que
ça a déjà commencé.
Ça va plutôt augmenter. Et Pierre Moscovici, chez nos confrères Les Échos, a dit le circulaire, il n'y a rien à voir sur les hausses d'impôts du gouvernement. Ouais. Moi, je ne suis pas pour. Donc, enfin, on va arrêter de creuser le déficit, parce qu'il y a quand même un peu de schizophrénie chez ce gouvernement qui court après 10 milliards quand ça fait un mandat et demi qu'ils nous ont plombé 60 à 70 milliards de recettes fiscales.
Pierre Moscovici, qui dit que c'est l'homme du ras-le-bol fiscal en 2013.
Oui,
il dit dans Les Échos,
il dit bien.
On ne peut pas avoir de tabou sur la fiscalité. Et c'est, alors lui, il parle d'un impôt qui serait temporaire et exceptionnel.
Oui, oui, bien sûr, une sorte d'ISF vert à la Mafousse. Mais le rapport de la Cour des comptes nous dit, si on veut vraiment tenir le programme de stabilité à l'horizon 2027...
Sur la fiscalité, on n'y arrive pas.
On peut réduire, mais c'est 50 milliards d'ici 2027 de réduction des dépenses publiques. On n'y arrive pas. On n'y arrive pas. Donc à un moment donné, on se dit, il va falloir dépenser de l'argent pour la dépendance, pour la transition numérique, pour pour l'éducation, pour l'hôpital. On sait très bien. Constat économique, c'est de dire que dans les années qui viennent, il va falloir plus de dépenses publiques. Alors, on est content, pas content, mais le constat économique va en falloir plus. Si à un moment donné, on n'augmente pas les impôts, et pourquoi ? Il ne faut pas les augmenter sur tout le monde, il faut les augmenter sur la partie des gens qui payent relativement moins d'impôts.
C'est le 1% dont vous parliez.
Et c'est pas facile. Je suis en train de faire un dossier là-dessus pour le prochain numéro d'Alter Eco, savoir combien payent vraiment. Quel est le taux d'imposition des 0,1% les plus riches? C'est loin d'être évident. Alors nous, en France, on a l'IPP, on a Piketty, tout ça, mais vous voulez faire un tour européen, il y a très peu d'études. Et sur le peu d'études qu'on a, il y en a 5-6, et sur les très peu d'études qu'on a, on s'aperçoit que c'est très régressif. C'est-à-dire, quand vous arrivez sur le 1%, sur le 0,05, sur le 0,1, les gens payent moins d'impôts. Donc il y a une partie des contribuables en Europe qui sont relativement sous-taxés, et franchement, les taxer à 2%, alors on a fait le petit calcul en France, ça va pas les spolier. Hein. On va passer de 5 000 milliards de fortune à 4 860 milliards, 4 840 milliards de fortune. Franchement, c'est pas spoliateur. Et ça rapporte 55
milliards. Vous me dites
milliards. C'est énorme.
Ah, 55 milliards de recettes. Évidemment. Oui, c'est une année d'hier, aujourd'hui, ça doit être dans les 90, 85 milliards d'euros. Donc, si on rajoute 55 d'un coup.
Et c'est pas spoliateur, franchement.
Ça vous fait réagir l'idée d'une taxation sur le 1% des plus gros patrimoines. Patrimoine, vous m'avez
patrimoine,
dit.
Patrimoine,
Non, mais moi, ce qui me gêne avec
je le disais aussi.
Il a le droit de pas être forcément hyper emballé à l'idée.
C'est surtout de.
Surprise, en fait.
C'est surtout l'absence.
J'ai envie de dire des deux côtés, Christian.
Oui, bien sûr. C'est surtout l'absence de prise en compte des comportements.
C'est 10 à 15% de fraude et d'évasion fiscale.
Oui, mais non, mais le sujet, c'est simplement que vous taxez le patrimoine une fois, la deuxième année, le patrimoine, il est en partie mobile. Le capital, il est en partie. Surtout le capital,
Le capital, c'est mobile.
Et donc, le principal sujet, c'est que quand vous taxez effectivement le capital, vous pouvez tout simplement, l'année suivante, avoir des recettes qui sont plus faibles et l'année suivante, encore des recettes qui sont plus faibles. Donc, je suis pas sûr que cette source soit extrêmement pérenne.
Pardon, mais. Jusqu'en 2014,
les personnes s'ajustent.
Jusqu'en 2014, j'aurais dit, vous avez entièrement raison. Depuis 2014, il y a une chose qui a été mise en place au niveau mondial. Donc, on peut pas aller à côté, parce qu'à côté, c'est pareil que chez nous. C'est l'échange automatique d'informations fiscales. Ça veut dire que vous êtes un Français, vous allez mettre une partie de votre patrimoine en Suisse, aux îles Caïmans, à Singapour. Hein, le fisc français est automatiquement sans rien demander, informé.
Et c'est pas la peine d'aller aux îles Caïmans. Si vous avez créé une taxe de 2% sur le patrimoine, vous pouvez aller dans un autre pays européen dans lequel il n'y a pas de taxe sur le patrimoine. Donc, on parle pas des paradis fiscaux. Là.
Mais il faudra le déclarer.
Ah oui, mais vous êtes libre de bouger votre.
Vous le bougez, mais que vous déclarez vos revenus du patrimoine et que c'est taxé, moi ça me va aussi. Hein.
Oui, mais le problème c'est que votre taxe, elle aura plus le même rendement au fur et à mesure. Moi, ce qui me pose problème, c'est toujours de penser que les comportements vont pas s'ajuster.
Si
vous taxez, les comportements vont s'ajuster. Donc, la pérennité d'une taxe sur le capital. La première année, vous allez taxer, ça va rapporter. La deuxième année, ça rapportera moins. 10 ans plus tard, vous risquez d'avoir des effets assez importants sur l'investissement.
Si j'ai 55 milliards fois 10 ans, ça me va.
Mais vous imaginez que ce serait une taxe à l'américaine extraterritoriale? Christian Chavagneux,
alors qu'en fait, taxe, ça c'est encore autre chose.
Parce que voilà,
aujourd'hui,
là où Stéphane et ce qu'il dit est audible, si j'ai, je sais pas, allez, 2 milliards de patrimoine et que du coup, j'en fais sortir 1 milliard que je vais investir dans un autre pays de manière tout à fait légale et déclarée.
2% sur votre milliard, pourquoi vous allez vous embêter à donner des commissions à des gens qui vont vous arnaquer pour flanquer votre argent ailleurs? Parce que les commissions qui sont prises par les gens qui font de l'opacité financière, c'est énorme, les riches se font spolier quand ils font ça.
Et c'est pas forcément opaque, hein. Vous pouvez très bien
dire. Si vous mettez tout à l'étranger, mais vous déclarez tout en France, moi, c'est pas de souci. Du moment que c'est taxé, ça va.
Vous mettez une partie à l'étranger, non, vous déclarez contre, en France,
vous,
ce qui reste
vous
en France.
Soulevez un point important, Nicolas, qui est l'exit tax. Aux États-Unis.
Oui, ça, on l'a fait avec ça.
Aux États-Unis, vous naissez. Aux États-Unis, oui. Vous passez toute votre vie à l'étranger, vous devez payer des impôts aux États-Unis. Chez nous, vous accumulez votre fortune en France pendant 50 ans, vous partez et vous payez plus rien. Il faudrait peut-être trouver un entre-deux qui fait que, je sais pas, pendant 5 ans ou 10 ans, vous continuez à payer des impôts en France.
Cette histoire,
c'est un vrai problème.
Cette histoire est extraordinaire. Il y a des gens qui se retrouvent rattrapés par le fisc américain, par un malheureux hasard, qui se battent pendant des années pour aider de se
donc
faire.
Donc c'est peut-être trop aux États-Unis, c'est peut-être pas assez chez nous, il faudrait peut-être trouver une voie médiane.
Bon. Après, pour compléter, je pense que ce qui l'explique, c'est ça peut être une bonne idée, en effet, une fois, deux fois, comme on y a eu, hein, quand il y a en effet la transmission des données, on a vu, on avait un an pour aller à Bercy. Et donc, ça a très bien
marché. La cellule de dégrisement, voilà. C'est Obama qui a provoqué ça, avec une loi au Congrès. Hein,
donc, et on a vu qu'il y a un rendement important pendant 1, 2, 3 ans, et puis beaucoup moins après. Donc là, je pense
mais
que
là,
ça,
là,
rapport,
là,
c'était on, ça, on, c'est on, se dire que ça peut être bien pendant 2, 3 ans, mais si après, de l'autre côté, on a une allocation qui est pérenne, est-ce que la source de revenus le sera pareil dans le temps.
Je pense qu'effectivement, il y aura un phénomène dégressif. Vous avez vu que Bruno Le Maire a porté l'idée d'une taxe sur
Impôt minimum mondial sur les plus riches.
Sur les 0,0002, je crois, de la population, 2%.
Ça, c'est l'IPP, ça.
C'est ce qu'il avait dit au G20, à Sao Paulo. Et là, Biden a dit qu'il fallait faire 25% minimum sur les milliardaires aux États-Unis. Il est en campagne, Joe Biden. Je ne suis pas du tout sûr que ça verra le jour. Bon, enfin, oui, en fait, ce serait l'effet ISF, ce que vous me décrivez, Stéphane Carcio, finalement.
Oui, oui, en partie. Ouais.
Non, alors l'effet l'ISF, il était très mal conçu. C'est pour ça qu'il rapportait pas beaucoup d'argent.
Hein. Ça faut reconnaître que à la fin, il a fini par rapporter un peu. Mais pendant pas mal d'années, il coûtait plus cher à percevoir que ce qu'il ne rapportait.
Les dernières estimations pour le manque à gagner avec la mise en place du PFU, c'est 5 milliards par an.
PFU, c'est
le prélèvement forfaitaire unique, le fait d'avoir baissé à 30% la taxation des revenus du capital. Là, ça nous coûte à peu près 5 milliards quand le gouvernement en cherche 10.
Mais moi, je continue à dire, Christian Chavagneux, qu'il était normal de mettre notre fiscalité sur le capital à des niveaux comparables avec les autres pays. Que c'était
vous évaluez ce que ça coûte, mais c'est difficile aussi d'évaluer ce que ça a pu rapporter, puisque vous savez que dans le rendement capital, vous avez moins d'indicateurs qui sont aussi performants que de dire juste la perte fiscale.
Le contrefactuel,
c'est
toujours oui. C'est toujours
en tout cas, il y a moins de recettes fiscales.
Ça, c'est sûr. Mais bon, c'est plus de valeur ajoutée et que ça finance l'économie réelle, c'est bien aussi.
C'est vrai que l'argument est juste sur le plan théorique, mais France Stratégie a fait le calcul et a essayé d'évaluer. Est-ce que les gens qui, du coup, reçoivent plus de dividendes, parce qu'il y a moins de taxes sur les dividendes, qu'est-ce qu'ils en font ? Est-ce qu'ils investissent dans leur propre entreprise ? France Stratégie nous dit non. Est-ce qu'ils investissent dans les autres entreprises pour le développer ? France Stratégie nous dit non. Qu'est-ce que ça a fait ? 98% des dividendes qui sont distribués dans ce pays vont vers 1% des contribuables. Le bilan de France Stratégie, c'est dire, un, ça a augmenté les inégalités, deux, ça n'a pas eu d'effet sur l'économie. France Stratégie.
J'ai vu ce rapport. J'ai vu. C'est très, très difficile de cibler où vont les euros qu'on libère d'un côté pour savoir où est-ce qu'ils vont atterrir. Je regarde la manière dont sont gérés les grands fonds qui, finalement, sont les principaux bénéficiaires des dividendes. Tout est réinvesti d'une manière ou d'une autre, de toute façon. On a 5 minutes. Le barème Macron, les indemnités 2017, c'était l'une des... C'était de...
Les ordonnances.
C'était Pénicaud. Ordonnance Pénicaud.
Les ordonnances Macron, puisque c'est président.
Mais à l'époque, c'était la queue de comète de la loi El Khomri qui était portée par Muriel Pénicaud. Et on avait cette fameuse idée qu'il fallait lever la peur d'embaucher chez les chefs d'entreprise. Le message était « je n'embauche pas parce que je ne peux pas débaucher ». Et donc on met en place un plafond lors des passages devant les prud'hommes en cas d'indemnité, enfin de licenciement, sans cause réelle et sérieuse. Vous avez fait le bilan quelques années après, et ça donne quoi, Stéphane Carcio ? C'était une grande mesure, normalement.
Alors, c'était une mesure qui visait à la fois, je pense, sécuriser, c'est-à-dire réduire l'incertitude sur les montants alloués en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Aussi possiblement baisser un peu le montant parce que il y avait des montants qui étaient très très élevés pour certains cas de licenciement et donc il y avait un plancher. Niveau minimum d'indemnisation et un plafond.
Je m'étais fait le tableau à l'époque, je ne l'ai plus sous les yeux.
L'idée, c'était de mettre en place quelque chose qui existe dans beaucoup de pays européens, dans une majorité de pays européens, c'est-à-dire en fait un encadrement de cette indemnisation en cas de licenciement injustifié, en quelque sorte.
C'est ça.
Alors, on est allé regarder énormément d'arrêts. Alors, pas au prud'homme.
259 000 arrêts de cour d'appel. Hein.
De cour d'appel. Donc, on est allé en cour d'appel parce que les arrêts de prud'homme sont pas facilement accessibles. Donc, on est allé aussi au niveau de l'appel. Et le barème s'applique aussi aux décisions des cours d'appel. Et donc, ce qu'on a vu, c'est que, en fait, le barème sur les indemnités allouées par le juge sans cause réelle et sérieuse fonctionnait. C'est-à-dire qu'il réduit le montant moyen de l'indemnité.
Alors que le juge respecte la loi, en fait.
Le juge, il y a eu beaucoup de débats avec les cours d'appel qui résistaient, etc. Mais globalement, quand on regarde tous les arrêts dont on dispose aujourd'hui, ça a fonctionné. Les juges l'ont quand même appliqué dans leur très grande majorité. L'incertitude sur le montant a été réduit. Et donc, de ce point de vue, les ordonnances ont réussi, ont rempli leur objectif. Le problème, c'est les effets de bord. Et c'est qu'en fait, les comportements s'ajustent. Alors, ce qui se passe, c'est d'abord...
Vous allez assez vite, hein, Chris, parce qu'on a 2 minutes.
Okay. Les avocats et les salariés sont allés chercher d'autres types d'indemnités, des retards de salaire, des heures supplémentaires pas payées, etc. Donc, ces demandes ont monté, et les juges ont eu tendance à aussi, puisqu'ils étaient demandés, à, une fois qu'ils l'avaient vérifié, à les accorder. Donc, ça fait monter le montant des autres indemnités qui peuvent être versées en plus de l'indemnité sans cause réelle et sérieuse.
On a plafonné d'un côté, on l'a compensé par des indemnités qui ont augmenté de l'autre côté.
Et d'autre part, les salariés et leurs avocats ont beaucoup cherché, beaucoup plus souvent, l'annulité. Alors, l'annulité, c'est un... Faire annuler le licenciement. Alors, le licenciement annulé, le barème s'applique plus du tout. Ça a été validé par la Cour de cassation. Et donc, le licenciement peut être annulé, c'est-à-dire qu'il est réputé ne pas avoir eu lieu lorsqu'il y a des situations de harcèlement, de discrimination, de licenciement de salariés protégés, etc.
Ouais, bon. Il y avait ça comme
élément. Et donc, du coup, alors, ces demandes ont augmenté et les juges ont aussi accordé un peu plus souvent l'annulité dans ce qu'on voit. Alors, ça reste très faible, hein, on reste à des niveaux de 3-4% de licenciement nul, donc c'est tout petit. Mais comme on passe du simple au double en proportion et que les montants alloués en cas de nullité sont beaucoup plus important parce que le contrat de travail est réputé ne pas avoir été rompu et donc on peut demander le versement des salaires depuis la date du licenciement, donc on voit que ça peut être très important. Donc là, effectivement, ces effets-là annulent, quand on prend l'ensemble des indemnités versées dans leur ensemble, ça annule l'effet du barème sur l'indemnité spécifique de licenciement sans cause réelle.
Quand on rentre dans le détail, c'est assez décevant, en fait, ce bilan que vous dressez.
Ça vous paraît aller dans le bon sens ou pas?
Il faut vraiment conclure.
Ça nous paraît aller dans le bon sens ou pas, cette compensation?
Moi, je pense que l'élément qui était vraiment très important, c'était de sécuriser la décision de licenciement du point de vue de l'employeur pour qu'il y ait un coût qui soit prévisible. Et pour le salarié, l'idée, c'était aussi, dans le cadre d'un licenciement, d'éviter d'attendre 2 ans ou 4 ans avec des procédures très longues et très angoissantes. Alors, ce qu'on ne sait pas encore, mais ce qu'on va continuer à regarder, c'est dans quelle mesure ce barème a quand même changé les cas qui vont au contentieux. Est-ce que ça a permis plus de transactions en amont? Est-ce que ça a contribué à la baisse des cas qui vont au prud'homme? Parce qu'on voit une très forte baisse des cas qui vont au prud'homme. Ça, on pourra le dire plus tard. Dans les montants aujourd'hui alloués, on voit un comportement de réaction, effectivement, avec d'autres indemnités qui augmentent et la nullité qui augmente. Est-ce que ce comportement de réaction est temporaire ou pérenne? On ne sait pas encore. Voilà, donc c'est des questions qu'il va falloir continuer à approfondir. On va continuer à travailler sur ce sujet pour voir si ça a changé les choses en amont.
On n'a pas le temps de débattre. Non, mais c'est un sujet...
Juste pour finir, ce qui est intéressant, c'est de voir la période où ça a été mis en œuvre aujourd'hui, où les chefs d'entreprise se battent pour recruter. Donc c'est vrai que c'est assez...
J'aurais bien voulu qu'on puisse parler de ça également, du télétravail, l'acquis des cadres. Surveiller et punir les pauvres, c'est la une d'Alternatives économiques du mois de mars. Merci Christian Chavagneux, merci Stéphane Carcillo et Anne-Sophie Elsif.